buenos días.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous, ils étaient partis chercher une meilleure fortune au Royaume-Uni et ailleurs en Europe. Aujourd'hui, les jeunes et moins jeunes expatriés tchèques rentrent vivre au pays. Ils rentrent vivre, mais surtout travailler chez eux, grâce à l'attractivité économique de villes comme Prague, la capitale. Le reportage d'Alexis Rosenzweig.
Assis à une table de sa brasserie préférée, dans un quartier prisé de Prague, Jerzy est convaincu d'avoir fait le bon choix en rentrant récemment dans son pays natal, après une quinzaine d'années passées en Floride et à Londres.
Je suis parti après la révolution de velours parce que j'avais besoin de changement et de voyage. La seule chose qui me manque peut-être depuis mon retour ici au pays, même si je vais régulièrement en Grèce, c'est l'océan et la plage où je pouvais aller après le travail quand j'étais en Floride.
Il est informaticien dans un cabinet de conseil et n'est pas un cas isolé. De plus en plus d'expatriés tchèques partis après la chute du communisme sont aujourd'hui de retour. Plusieurs raisons à cela. La famille et les amis, bien sûr, le relativement faible coût de la vie et surtout la qualité de vie que peut offrir une ville comme la capitale tchèque.
J'avais du travail et j'ai suivi une formation à Londres, ce qui m'a permis d'avoir un relativement bon salaire là-bas. Du coup, je prenais l'avion souvent pour rentrer à Prague, me faire soigner les dents par exemple, ou juste en vacances. Je voyais à intervalles réguliers comment les choses évoluaient dans le bon sens ici, comment le pays se développait rapidement. Après 7 années passées à Londres, j'ai donc décidé qu'il était temps de rentrer à la maison. Et contrairement à Londres, ici je peux habiter dans le centre avec un loyer très bon marché. Même si je gagne moins d'argent que là-bas, j'ai davantage de pouvoir d'achat ici.
Pour ce qui est de trouver un job, pas vraiment de problème ici, avec un taux de chômage à peu près égal au taux de croissance, environ 2,5%.
Chandová, prosím.
Camilla en sait quelque chose. Elle-même rentrée après plusieurs années en Grande-Bretagne et en Australie. Elle est aujourd'hui directrice des ressources humaines dans la branche pragoise d'une des nombreuses multinationales récemment installées dans la région.
Le chômage est tellement faible en ce moment que ceux qui rentrent ont la chance assez exceptionnelle de pouvoir trouver immédiatement un emploi. Ici, ce n'est pas le chômage qui est un problème, mais plutôt le manque de main-d'œuvre. Pour ceux qui veulent revenir, je crois qu'ils n'ont aucun problème à intégrer le marché local du travail, d'autant que leur expérience à l'étranger est souvent une vraie valeur ajoutée du point de vue des employeurs, parce qu'ils ont en général une certaine capacité d'adaptation et sont habitués à travailler dans un contexte international.
Le tramway et la fiabilité des transports en commun en général sont une des qualités de Prague, appréciées encore davantage au retour par ses anciens expatriés, qui font le constat qu'à l'Ouest, ça ne marche pas forcément mieux, voire beaucoup moins bien, même si beaucoup plus cher.
Les transports en commun à Prague font partie des choses que nous avons tendance à sous-estimer. Le fait que les bus soient à l'heure, que le métro fonctionne sans panne ni grève, que le tramway permette de circuler partout, ça nous paraît être une évidence. Mais quand on vit à Sydney ou à Londres, par exemple, on se rend compte que des complications sont fréquentes. Ici, en fait, tout est assez simple et reste encore assez bon marché. Mais c'est quand on a la chance de pouvoir comparer qu'on se rend compte de l'amélioration de la qualité des services dans le pays.
Nombreux sont ceux qui apprécient également de ne pas éprouver de sentiment d'insécurité à Prague, que l'on parle d'incivilité ou même d'attentats terroristes. Le chercheur Martin Michelot est spécialisé dans les questions de sécurité en Europe centrale.
Je pense qu'il faut être très réaliste sur le fait que, en compte, c'est toujours des choses qui reviennent dans le coin de la tête, qu'on soit à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Il y a aussi, oui, la sécurité de tous les jours. Clairement, à mon avis, là, c'est quelque chose qui joue, tout en sachant que, justement, tout ce qui est du domaine de la santé, de l'éducation, soit on a les moyens et on peut, justement, avoir des soins, une éducation d'excellente qualité pour soi-même, pour ses enfants, et que même les services publics sont en amélioration et en progrès constant. Donc de ce côté-là, il y a très très peu de choses qu'il faut craindre en République tchèque.
Comparé aux Polonais, relativement peu de Tchèques vivent aujourd'hui en Grande-Bretagne, mais cette vague de retour vers les différents pays d'origine d'émigrés d'Europe de l'Est pourrait bien sûr s'amplifier avec le Brexit. Ladies and gentlemen.
gentlemen, welcome in our country. We'll take care of you, you at home. Even if we're not the biggest country in the world, you at home. This is not America, this is not Japan, this is not Ibiza, this is Belgium.
Welcome to Belgium.
Autre conséquence du Brexit à venir, de nombreuses sociétés installées outre-Manche envisagent de délocaliser une partie de leur activité sur le continent. Et plusieurs villes européennes leur font déjà les yeux doux, notamment Bruxelles. Le secteur immobilier s'est mobilisé en lançant dès cet été le site Business to Belgium. Cette plateforme recense plus de 700 000 m² de bureaux disponibles. Alice De Baptiste de la RTBF est partie à la découverte des produits les plus attractifs de la capitale dans le quartier des institutions européennes.
Dans le quartier européen, il faut se faufiler entre les voitures pour atteindre les bureaux les plus prisés. Nous sommes en compagnie de Pierre-Michel Meersmans, agent immobilier chez CBRE, et c'est lui qui a la clé.
Bienvenue. Au 4e étage.
Les portes de l'ascenseur s'ouvrent face à une grande baie vitrée. Autour de nous, 800 mètres carrés de surface lumineuse avec une vue imprenable et une position stratégique.
Nous sommes dans le Schumann 2-4, donc un immeuble de Befimo, qui se trouve effectivement en face du siège de la Commission européenne. On a le Berlaymont juste devant nous. En face, le siège d'une autre institution européenne, les services d'action extérieure de l'Union, et à côté du Conseil de l'Europe. Donc juste au-dessus du rond-point Schumann. Fantastique. Vue sur le rond-point.
En quoi cette surface ici pourrait intéresser des sociétés britanniques ?
Ah bien, une des raisons pour lesquelles les sociétés britanniques peuvent s'intéresser à Bruxelles, c'est le centre de décision européen qui se trouve juste en face de nous ici. Et donc effectivement, c'est une des surfaces qu'on peut proposer à des gens qui pensent se relocaliser depuis Londres à Bruxelles. Et ce type de surface peut parfaitement répondre à leurs exigences. On est dans un bâtiment très moderne, dont les conceptions techniques ont été soigné, un propriétaire professionnel et donc qui met à disposition ce type de surface pour des entreprises.
Et ce bijou immobilier, on peut maintenant le retrouver sur la plateforme Business to Belgium. C'est l'union professionnelle du secteur immobilier qui l'a créé. Pierre-Alain Franck est administrateur dans la fédération. Il nous attend quelques centaines de mètres plus bas, en plein milieu du rond-point Schumann. Pour lui, il était urgent d'agir.
Globalement, il y a une nécessité de structurer la communication pour profiler Bruxelles au niveau européen. Et c'est là que on apporte notre pierre à l'édifice. Ça permet effectivement de proposer exactement qu'est-ce qui est disponible, à quel type de conditions. Et donc c'est très intéressant, c'est très facile aussi à utiliser.
Effectivement, le site offre la possibilité d'entrer directement en contact avec le propriétaire du bâtiment. Il met en évidence le prix compétitif de l'immobilier belge par rapport à ses concurrents européens. Un véritable atout. La Belgique présente le meilleur coût d'occupation du marché. Mais Business to Belgium veut également être un appui pour d'autres fédérations professionnels belges.
On vient en support de plein d'initiatives au niveau des secteurs, mais aussi au niveau de la WEX, au niveau de FIT, au niveau de Bruxelles Invest and Export, pour justement les aider à bien communiquer sur les avantages de Bruxelles.
Et ses atouts, Cécile Jedogne, secrétaire d'État à la région bruxelloise, qui soutient le projet, les connaît bien.
Vous pouvez atteindre toutes les capitales européennes très facilement. La qualité de la main-d'œuvre, qui est multilingue, très qualifiée, la qualité de vie. Une ville accessible, conviviale, qui a une offre culturelle, sociale, des espaces verts. Et puis, vous avez aussi une ville qui développe une dynamique économique intéressante dans des secteurs de pointe, dans des secteurs de niche, et qui offre donc un contexte économique aussi très dynamique.
Pour le monde politique, Business to Belgium est devenu une belle carte de visite à présenter à l'étranger, un outil précieux pour un enjeu de taille. Jusqu'à 60 000 travailleurs pourraient déménager de Londres et sa city dans les 2 ans à venir.
Nouveau coup de froid sur les relations entre la Bulgarie et la Macédoine, malgré un accord dit historique signé cet été. Skopje accuse Sofia d'encourager l'exode des Macédoniens, Simon Rico.
C'est la déclaration fin septembre du vice-premier ministre bulgare qui a remis le feu aux poudres. Valery Simeonov a annoncé la simplification des procédures de naturalisation déposées par les citoyens macédoniens, expliquant qu'aujourd'hui au moins 53 000 demandes étaient en souffrance. L'élu nationaliste veut réduire le délai d'attente à 6 mois maximum, contre 2 à 3 ans aujourd'hui. Valery Simeonov affirme aussi vouloir attirer des travailleurs qualifiés macédoniens en leur délivrant un titre de séjour spécial en appel. À peine un mois. Pour les citoyens de Macédoine, le passeport bulgare est particulièrement attractif parce qu'il leur permet d'intégrer facilement l'Union européenne. Ces propos ont donc suscité la colère de Skopje, qui craint l'accélération de l'exode de ses habitants, d'autant que la Macédoine ne cesse de se dépeupler. D'après la Banque mondiale, le petit pays des Balkans aurait déjà perdu un quart de sa population depuis son indépendance en 1991. Pour obtenir la nationalité bulgare, les Macédoniens doivent prouver leur ascendance bulgare, une procédure facilitée par les autorités de Sofia, d'autant que la Bulgarie considère toujours la Macédoine comme un territoire lui appartenant. Ces différends entre les deux pays voisins remontent à la redéfinition des frontières des Balkans décidée par les grandes puissances au moment de la disparition de l'Empire ottoman. Selon les estimations actuelles, au moins 140 000 Macédoniens auraient déjà obtenu la citoyenneté bulgare sur une population totale inférieure à 2 millions d'habitants.
Get out of bed. Resistance is futile. Wake up and assimilate the day, the day.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Aujourd'hui dans votre chronique jeune, on poursuit le feuilleton des répercussions de l'affaire Weinstein, du nom de ce grand producteur de cinéma américain, accusé de harcèlement sexuel la semaine dernière par une quinzaine de femmes de l'industrie du cinéma. Alors le week-end dernier, le sujet a enflammé les réseaux sociaux outre-Atlantique, mais aussi ici en Europe et notamment en France et en Italie.
Et oui, c'est par quelques mots-clés que la déferlante est arrivée. Me too, Ishaor, yo también, que la voltaque, moi aussi. Autant de témoignages en 140 petits caractères, des récits de femmes plus ou moins jeunes au moment où elles s'expriment sur les réseaux sociaux, mais souvent plus jeunes quand elles ont été confrontées à un prédateur sexuel. Victimes de harcèlement, d'agression, toutes racontent le sexisme ambiant au travail et la banalité des gestes, des mots qui permettent de saisir l'ampleur d'un phénomène répandu dans tous les pays, tous les secteurs professionnels et tous les milieux.
Alors une chasse aux prédateurs qui s'est transformée au cours du week-end en une véritable prise de conscience.
Oui, le week-end dernier en France, le mot-clé « balance ton porc » a un temps été classé parmi les sujets les plus abordés du week-end. L'initiative est venue d'une jeune Française installée à New York et en 3 jours, plus de 150 000 personnes ont publié des messages en réaction à son tweet. Elle-même a dénoncé son agresseur, soulignant que les médias étaient tout autant concernés par le phénomène que le monde du cinéma.
Et c'est un autre mot-clé qui a fait le tour de l'Europe et que chaque langue s'est donc réapproprié, le fameux hashtag MeToo.
MeToo pour dire moi aussi je me suis fait harceler, menacer, agresser par un prédateur sexuel. La plupart témoignent sous leur vrai nom mais ne donnent pas le nom de là où les personnes concernées. Elles veulent juste, comme elles le disent, révéler l'ampleur du phénomène. Certaines d'ailleurs avouent ne même pas savoir quelle histoire choisir tellement cela leur paraît appartenir à leur vie de jeune femme. D'autres soulignent la difficulté pour elles de parler. Toutes en tout cas espèrent que leur témoignage permettra enfin d'amorcer un changement de mentalité.
Alors en Italie toutefois, le mot-clé Quella Voltaque, la fois où, a déclenché une polémique.
Oui, il était lancé par la blogueuse italienne Giulia Blasi. Le mot-clé était en fait une réaction indignée aux commentaires dans son pays, eux-mêmes faisant suite au témoignage de l'actrice italienne Asia Argento, qui a raconté avoir été agressée à l'âge de 20 ans par Harvey Weinstein. Plusieurs titres de presse italiens, marqués à droite, ont remis en question le récit de l'actrice et se sont inquiétés du caractère, je cite, brutal et incontrôlée des témoignages sur les réseaux sociaux ainsi que d'un amalgame anti-hommes.
Alors les hommes justement, comment réagissent-ils?
Eh bien d'abord, certains d'entre eux ont accompagné ce mot-clé en reconnaissant humblement le courage de ces femmes, l'ampleur du phénomène. D'autres au contraire ont remis en cause, comme je le disais, cette parole soudainement libérée. Mais ces derniers temps, on a également vu fleurir plusieurs témoignages de mea culpa, des hommes qui reconnaissent qu'ils sont parfois restés silencieux face à des abus car ils ne savaient tout simplement pas comment réagir.
Alors comment expliquer, Eve, ce raz-de-marée soudain soudain de témoignages, notamment européens, en l'espace de quelques jours?
Ben, probablement parce que le débat était mûr, en quelque sorte. Hein. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent une forme d'expression libre, directe, capable du pire comme du meilleur, encouragée par leur père, écœurée par les révélations de la semaine dernière. Les femmes ont pu enfin mettre un mot sur ce qu'elles avaient pratiquement toutes expérimenté. Il faut dire aussi que ces dernières années, de nombreuses plateformes de témoignages ont vu le jour, hein, comme par exemple Paytachnek en France, un site qui invite les internautes à partager toutes les choses entendues dans leur quotidien et qui relève du sexisme ordinaire, mais aussi peut-être parce que les lois elles-mêmes ont beaucoup évolué en Europe depuis le début du XXIe siècle. Mais ça, Laurent, je crois que vous en parlerez demain dans Accent d'Europe.
Absolument, nous y reviendrons avec Daniel Vigneron. En attendant, tous les liens cités à l'instant dans votre chronique sont sur notre page Accent d'Europe. Merci Eve, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Pourquoi la composition d'un même produit varie d'un pays à l'autre? C'est la question que posent les Lituaniens, révoltés contre la pratique des doubles standards en matière de produits alimentaires. Une étude a révélé des différences dans la composition de certains produits lorsqu'ils sont vendus en Lituanie ou dans d'autres pays. Et ce qui était dénoncé sur la base de l'intuition est désormais prouvé, Marielle Vituro.
Plus de colorants, plus d'épaississants, plus de graisse, ce sont au final 23 produits vendus en Lituanie sur les 33 testés par les autorités sanitaires, dont la composition diffère de ceux vendus en Allemagne. L'emballage est le même, hormis la langue, mais à l'intérieur, les articles destinés au marché balte sont en général bien moins sains. Des arômes artificiels sont ajoutés au Tylenol, bien souvent l'huile de tournesol est remplacée par l'huile de palme et le sucre par des fructoses. La liste est encore bien longue. La pâte à tartiner Nutella a moins de poudre en lait dans sa composition et une sauce aigre-douce d'Uncle Ben's moins de légumes. Le marché s'adapte au goût lituanien, se défendent les différents producteurs. Pourtant, les Lituaniens ont bien le sentiment d'être victimes de doubles standards puisque les produits qu'on leur propose sont plus gras et moins appétissants. Dans son discours sur l'état de l'Union européenne à la mi-septembre, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a soulevé la question. Dans une union où tous sont égaux, il ne peut y avoir de consommateurs de seconde classe, a-t-il déclaré. Slovaques ou Hongrois ne méritent pas cela, les Baltes estiment que non plus. La Lituanie ne compte donc pas s'en arrêter là. Elle pourrait bientôt tester les lessives, les shampoings ou même les appareils électroménagers. La présidente de la Fédération des consommateurs lituaniens reçoit régulièrement des plaintes concernant ces produits. Les députés se sont également emparés du sujet. Une commission a initié une enquête parlementaire et ses résultats plaide pour une solution que les Lituaniens veulent européenne.
Pendant un demi-siècle, Varsovie a tourné le dos à son fleuve, la Vistule. Mais depuis quelques mois, cela change. Une partie des quais a été rouverte cet été. Un nouveau tronçon vient d'être attribué à une grande entreprise d'architecture, Maya Szymanowska.
Des boulevards comme cela, il n'y en a pas, même à Paris, a lancé la maire de Varsovie, Hanna Gronkiewicz-Waltz, en inaugurant les premiers kilomètres de boulevards qui longent la Vistule. Cela n'a pas été le cas durant plusieurs décennies. L'hiver, la Vistule gelée. L'été, ses eaux tumultueuses coulaient sans être remarquées par les habitants de Varsovie. La ville vivait ailleurs. Les bords du fleuve étaient jugés dangereux, les eaux de la Vistule sales et tourbillonnantes, impropres à la baignade. Tout cela a bien changé. L'eau est devenue plus propre, les berges ont été aménagées. Désormais, dès que les premiers rayons du soleil pointent leur nez, les habitants de Varsovie prennent d'assaut les bords du fleuve. Certains viennent pique-niquer sur les plages de sable fin de la rive droite. D'autres louent des kayaks, des voiliers, des petits bateaux à moteur et admirent la ville depuis le fleuve. Depuis fin août, ils peuvent aussi se promener le long de magnifiques boulevards sur la rive gauche. Les architectes ont gardé les escaliers descendant dans l'eau avec des inscriptions anticommunistes du temps de la dissidence. Mais à part ce détail vintage, les boulevards sont flambant neufs avec de somptueuses fontaines et autres jeux d'eau, des cafés, des restaurants, des scènes musicales, une piste cyclable et des aménagements pour pique-niquer. Un chantier pharaonique, pas encore tout à fait terminé, où chaque kilomètre coûte près de 15 millions d'euros, mais qui a d'ores et déjà été plébiscité par les habitants.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver sur RFI.fr à la page émission.